Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne.
C'est l'histoire d'un homme qui aimait tellement voyager et partager qu'il en a fait son métier. Après avoir vécu quelques expériences inoubliables dans les régions polaires, l'aventurier Ismaël Khelifa a eu envie de transmettre et de faire profiter les autres de ses connaissances et de sa passion. Il le fait en accompagnant des enfants, des adolescents ou des adultes de tous âges dans les régions les plus reculées de la planète. Il le fait ensuite en écrivant des livres pour enfants inspirés de ses expéditions. Son dernier ouvrage s'intitule « Opération Manchot » aux éditions Pulp Fiction. Il le fait aussi à travers les chroniques sur le voyage qu'il présente sur France 5. Et il le fait enfin en venant passer une heure avec nous. Cet après-midi, le passeur d'ailleurs Ismaël Khelifa vient partager avec nous ses plus beaux souvenirs de voyage. Et en fin d'émission, nous prendrons des nouvelles de Mélusine Malander que nous avions reçue il y a quelques semaines et qui est repartie sur les routes avec sa moto. Elle se trouve actuellement quelque part en Bolivie. Nous verrons comment ça se passe pour elle. Voilà pour la feuille de route de la deuxième partie de notre bivouac.
Ah ouais, mais c'est trop beau. Il y a un peu de nuages, mais...
Ah. Wow. Ça, c'est la banquise, là.
Ouais. En bas, c'est la banquise.
Oh, c'est énorme.
On y est. Hey, tu vois, il fait pas si chaud. Hein.
Copenhague à 4h15.
Los Angeles à 6h45.
Pôle Nord à 3h15.
Mais on y est déjà au pôle Nord, non?
Les voix de trois enfants que vous connaissez, Ismaël Khelifa, vous les avez emmenés avec vous jusqu'au Groenland. C'était dans le cadre d'un projet mené pour une association à l'occasion de la COP21. Racontez-nous ce joli projet.
Eh bien, en fait, c'est une association qui est absolument formidable, qui s'appelle Les Petits Citoyens. Et ce que fait cette association, c'est qu'elle propose à des jeunes adolescents ou des enfants, parce qu'ils étaient en CE2, de se mettre dans la peau de reporters et d'aller documenter le monde. L'idée, c'est que dans ce monde complexe, de leur donner les clés en fait pour mieux le comprendre. Et là, ils avaient bossé sur le réchauffement climatique pendant plusieurs mois. Ils avaient fait des ventes de gâteaux dans tous les sens pour récupérer de l'argent. Et on est parti donc au Groenland au moment de la COP21 rencontrer les chasseurs du Groenland qui souffrent de la fonte des glaces et du dérèglement climatique sur place. Et ils sont allés prendre conscience, je dirais, comme on dit, par eux-mêmes de ce qui se passait dans ces territoires. Et c'était une expérience extrêmement forte, on les a catapultés dans un monde qu'ils n'imaginaient même pas, mais qu'ils ont adoré.
Catapultés, mais en douceur, hein, ils ont l'air de bien le vivre. Combien de temps êtes-vous parti avec ces enfants?
Alors, c'était assez rapide, je crois qu'on était parti une dizaine de jours, mais en fait, il faut s'imaginer que, ils habitent à côté de Toulouse, et de Toulouse, donc, trois jours après, ils se sont retrouvés à Kangerluchowak, en fait, qui est le grand aéroport du Groenland. Alors, attention, c'est pas Roissy, hein, il y a une piste où atterrissent de temps en temps quelques avions, et quelques minutes après, il marchait sur la calotte polaire, cette immensité blanche, ce grand désert de glace de l'hémisphère nord. Et ils étaient absolument subjugués et étonnés, surtout, de voir un endroit comme ça, sans route, sans maison. Et puis, comme c'est des enfants, ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire du toboggan là où la glace le permettait. Donc, il fallait aussi qu'on fasse un peu les monos de colonie. Ouais, quoi.
Et il y a eu, évidemment, on s'en doute, quelques moments de grâce et d'émerveillement.
Ça va, les enfants?
Ouais.
Venez, il y a une aurore boréale dehors.
Ah bon?
Ouais. Allez, dépêchez-vous. Habillez-vous.
J'ai
vous
quoi,
allez
être
les trois. Alors, on a de la chance, hein.
Regardez là, ouais. On commence à bien voir là. Vous voyez?
Oui.
Regardez.
Ouais.
Là, vous voyez, on voit bien toute la traînée verte.
Ah oui, là, on la voit bien. Ça y est.
Ouais. Oh, là, ouais, trop beau. Elle y est là.
Waouh.
Ah, magnifique.
Avoir moins de 10 ans et habiter Toulouse et avoir déjà vu une aurore boréale, ils ont de la chance, hein, ces enfants que vous avez accompagnés jusqu'au Groenland, Ismaël Khelifa. Ils garderont certainement toute leur vie le souvenir de ce voyage qu'ils ont fait avec vous. C'est important de bien commencer, d'avoir une première expérience heureuse d'un tel voyage.
Eh bien, je crois qu'effectivement, ça les a marqués à vie. En fait, moi, je dis souvent que l'essentiel, avec les gens qu'on emmène dans ces régions si particulières, qui sont encore porteuses d'une aventure incroyable, C'est même pas qu'ils prennent conscience, c'est que ça les prend aux tripes, en fait. Et ces enfants ont été très touchés. Je me souviens du petit Loïs qu'on entend, qui est qui était le garçon de la bande, qui à un moment a été dans le village de chasseurs où beaucoup de gens partaient. Il y avait une cinquantaine d'habitants, beaucoup de maisons fermées parce que les gens partaient, ils ne peuvent plus pêcher et chasser comme ils le faisaient par le passé. Et je me souviens qu'à un moment, il me dit, mais c'est fou, c'est nous qui prenons des avions, c'est nous qui prenons des voitures, et c'est eux qui doivent quitter leur village. Et ce qui est très touchant chez les enfants, c'est qu'à la fois, quand ils voient l'aurore boréale, ils s'émerveillent, mais en même temps, ils nous disent, oh, c'est pas comme à la télé, c'est beaucoup moins vert, effectivement, il n'y a pas d'étalonnage. Mais que d'un autre côté, ils ont des réactions beaucoup plus cash et directes, en fait, sur les sujets problématiques qu'ils s'opposent, qu'ils rencontrent sur leur chemin.
Ouais. C'est évidemment, ce sera le fil rouge un peu de nos discussions, parce que c'est effectivement très présent dans vos voyages et dans les groupes que vous accompagnez, les questions liées à l'environnement, à la pollution, au réchauffement climatique, surtout quand on va dans les régions que vous affectionnez tout particulièrement, qui sont ces régions polaires. Le métier de guide, ce qui vous a amené à le faire, c'est ce goût de l'ailleurs, cette envie de transmettre aussi. Finalement, vous êtes bien dans le voyage quand vous transmettez.
Eh bien oui, et en fait au début moi je faisais du documentaire télévisé, j'ai travaillé sur des émissions comme Rendez-vous en terre inconnue, donc en fait en m'adressant à un public que je ne voyais pas. Et puis un jour j'ai eu la chance d'emmener mes parents, mon père a 76 ans, ma mère a 10 ans de moins, j'ai eu la chance de les emmener en voyage. Et je me suis rendu compte que de leur faire la surprise, de leur montrer ce qui était mon univers tous les matins, et de voir leurs yeux d'adultes qui redevenaient des yeux très enfantins, des moments de silence incroyables, des moments aussi où on n'était pas dans leur univers et où on partageait des choses très intimes, c'était absolument extraordinaire, et c'est ça qui m'a donné envie de franchir le pas et d'emmener d'autres personnes.
Ouais. Alors, vous le faites avec des adultes, on en parlera, et là on le voit, vous le faites avec des enfants. Avec les enfants, ça semble un peu plus périlleux encore, on doit se sentir investi d'une lourde responsabilité, voilà, emmener à l'autre bout du monde des jeunes, des enfants qui ne sont pas les vôtres, hein. On vous les confie.
Je vous le confie. Et,
on vous les confie et il va falloir les ramener à bon port, entiers, en bonne santé. Ça représente une pression particulière pour vous?
Oui, il y a une question de sécurité qui est absolument terrible. En fait, moi, je me souviens un jour, j'ai emmené 4 enfants en décrochage scolaire au Kerguelen. Et en fait, c'était la première fois vraiment que je gérais ça et je n'endormais pas de la nuit.
Ah oui. Avant de partir ou encore même quand vous étiez pas
envoyé. Pendant. Alors évidemment, je l'aurais jamais dit. Ouais. Mais parce qu'en fait, déjà, comme avec vos propres enfants, il y a des dangers que vous n'auriez jamais vus. Enfin, tout devient un danger. Mais là, en plus, ce ne sont pas vos enfants. Vous savez que s'il y a un problème, c'est vous en grande partie qui êtes responsable. Et puis en même temps, il faut que tout se passe bien et on ne peut pas leur demander, eux, d'avoir la réactivité nécessaire et la hauteur nécessaire pour ne pas prendre de risques. Mmh. Donc ça fait effectivement très peur quand on se retrouve dans ces situations-là.
Ouais. Ça fait peur, ça rapporte aussi de très bons souvenirs qui vous ont conduit à publier pour le moment 2 livres d'une série qui en comptera peut-être plus dans la collection Team Aventure. C'est édité chez Pulp Fiction, très très joli nom d'édition. Alors, il y a eu le premier ouvrage, c'est Opération Groenland. Il est directement inspiré de cette expédition dont on parlait avec les jeunes au Groenland.
Oui, alors il est inspiré en partie de cette expédition, aussi d'autres groupes que j'ai pu emmener. Et puis, sur la couverture, en fait, on voit les 4 jeunes habillés en jaune fluo et en noir. Ouais. Et bien ça, en fait, ce sont les habits que nous, on porte en tant que guide dans la compagnie où je travaille. D'accord. Et les guides, en fait, ont été très touchés parce que pour être guide, faut vraiment garder... En fait, il faut aimer la nature et il faut aimer les gens. Et donc, il faut être très enfantin dans son approche. Il faut que, quand vous voyez la 1500e baleine de votre vie, c'est comme si vous voyez la première. Ouais. C'est ça, un bon guide. Et ça se commande pas. On l'a à l'intérieur
c'est
de
ça.
Soi.
Il faut être... spontanément et réellement émerveillé, sinon on passe rien. Si on est blasé, on peut rien transmettre.
Bah, tout à fait, il n'y a pas qu'une question de relation client, hein, comme on dit. Il y a vraiment un émerveillement qui est nécessaire. Et puis sinon, c'est terrible, parce que vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas, qui ont parfois des réactions qui vous choquent. Donc si vous n'avez pas cet émerveillement, vaut mieux passer à autre chose.
Alors dans votre ouvrage, ces 4 jeunes adolescents qui partent voyager avec des missions écologiques. Alors il y a Fatou, Hugo, Vicky et Yanis. Pour le Groenland, ils partent donc en Arctique pour des missions écologiques. C'était quoi l'idée? C'était de transmettre à un plus grand nombre d'enfants, parce que ça s'adresse vraiment, on l'a dit, aux enfants, ces ouvrages-là.
Oui, aux 8-12 ans, effectivement. Eh bien, l'idée, déjà, effectivement, c'était de s'adresser à un maximum d'enfants et de les amener vers, je dirais, les thématiques écologiques, mais à travers autre chose qu'un travail professoral. Moi, je suis pas prof. Et puis, j'ai eu la chance d'être scénariste sur d'autres projets, donc. Et je voulais, à travers cette aventure, eh bien, les sensibiliser à cet amour profond de la nature. Moi, j'ai eu la chance d'y être sensibilisé par mes grands-parents. grands-parents, ouais. Qui étaient fermiers et paysans en Haute-Savoie, dans les montagnes. Et quand j'étais petit, en fait, j'étais souvent dans leur petit village de 70 habitants. Et ces grands espaces me touchaient tellement qu'aujourd'hui encore, quand ça ne va pas, je retourne dans ces grands espaces et tout va bien. Et je me suis dit, bien, à tous ces jeunes urbains, si je peux leur transmettre cet amour des grands espaces, cet amour de la rencontre avec l'autre, alors j'aurais accompli quelque chose d'intéressant dans ma vie.
Alors, le deuxième tome est déjà sorti. Cette fois-ci, c'est Opération Manchot. Alors, vous emmenez toujours la même petite troupe, hein, les quatre mêmes héros aux îles Malouines. On change d'hémisphère.
Hein,
on arrive du côté sud, assez au sud. Vous nous rappelez quand même géographiquement où se situent exactement les îles Malouines ?
Alors, les Malouines, donc, ce sont des petites îles qui se trouvent à l'est des côtes de l'Amérique du Sud, donc à l'est de l'Argentine. Donc, vous savez, il y a eu une guerre pour la possession de ces îles. Et on est en fait dans la porte d'entrée du monde austral, du monde de l'Antarctique. Donc, c'est le monde des manchots et des albatros. Et il se trouve que j'ai une très bonne amie qui vit là-bas, Marie-Lou, qui est l'héroïne de ce livre.
Oui, elle est dans le livre. Elle existe vraiment et c'est une des héroïnes du livre. Qui est-elle alors, Marie-Lou ?
Alors, Marie-Lou, c'est une jeune femme absolument extraordinaire. Elle a 22 ans. Et en fait, elle est à la fois pilote d'avion, première femme pilote d'avion aux Malouines. Elle est française. Hein. Mm-hmm. Elle est en train de passer là ses diplômes. Et en même temps, elle a grandi en Antarctique sur un voilier qui s'appelle le Sourire, avec ses parents qui sont pour moi, je dirais, des vrais aventuriers, entre guillemets, dans le sens où ils l'ont fait pour eux et rien que pour eux. Il n'y avait pas de démarche égocentrique derrière, c'était une expérience de vie qu'ils sont allés vivre. Ouais. Et ensuite, ils se sont installés aux Malouines, où ils ont acheté des terrains grands comme Paris, où ils ont pris des moutons, ils se sont improvisés fermiers. Et aujourd'hui, ils ont 5000 moutons qui vivent à côté des colonies de manchots papous.
Ouais.
Et donc, ils sont là à la fois pour protéger les manchots papous et les albatros qui vivent pas loin de chez eux, nettoyer les plages qui, comme malheureusement toutes les plages du monde, récupèrent des déchets ramenés par les courants marins, et en même temps, eh bien, faire cette laine incroyable, la laine des Malouines, qui va permettre de faire des bonnets, des écharpes et des textiles un peu partout dans le monde.
Ouais, une vie incroyable hein, qu'ils ont, cette famille. Alors, dans cet archipel des Malouines, il y a les Steeple Jason, c'est une île particulière qui vous plaît tout particulièrement. Décrivez-la nous, alors, cette île.
Alors, Steeple Jason, quand vous y arrivez en bateau, parce que c'est le seul endroit, évidemment, pour y aller, le seul moyen d'y aller, pardon, quand vous arrivez en bateau, vous voyez comme ça une immense montagne qui jaillit par-dessus l'océan. En fait, pour tous ceux qui ont aimé les récits de pirates étant enfants, c'est l'île de pirates par excellence. Et en fait, tout autour, il y a des milliers, voire des centaines de milliers d'oiseaux qui tournent. Et ce ne sont pas des tout petits oiseaux, ce sont des albatros à sourcils noirs, jusqu'à 2,50 m d'envergure. Et vous arrivez dans le monde des oiseaux, ça crie, ça sent pas bon, parce que les oiseaux vivent évidemment dans leur fiente. Et puis ces milliers d'oiseaux qui tournent comme ça vous accueillent, vous arrivez sur l'île, il y a de très hautes herbes, desquelles sortent parfois des lions de mer effrayés, donc qui partent à toute vitesse, qui vous viennent dessus. Et quand vous marchez, vous avez une nature qui est très peu visitée. Et donc, il m'est arrivé, moi, de me perdre sur cette île, en étant à la recherche d'une colonie d'albatros. Ouais. Et c'est ce que j'ai mis, évidemment, dans les aventures que j'ai attribuées à ces quatre jeunes, qui ne sont pas allés là-bas, mais que j'ai remis en scène dans ce décor.
D'accord. Vous n'avez pas réellement emmené des adolescents dans ce monde perdu ? Ils auraient adoré, mais ça aurait été un peu trop dangereux, peut-être ?
Non, pas du tout. C'est que ce sera peut-être pour plus tard.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est d'avoir découvert cette île qui m'a donné envie d'écrire ce deuxième tome. Et je me souviens que j'étais rentré sur le bateau à l'époque et que j'avais commencé à griffonner le scénario de l'histoire en rentrant sur cette île.
Tout à l'heure, pour le Groenland, là, les extraits qu'on entendait, c'était des jeunes, des très jeunes. Hein, vous nous avez dit CE2, hein, ils avaient moins de 10 ans, ces enfants. Chez les enfants de cet âge-là, l'émerveillement n'est jamais très loin. Hein, c'est facile d'émerveiller des enfants. C'est un peu plus difficile avec des adolescents. Vous avez aussi voyagé avec des adolescents. Est-ce que parfois, c'est compliqué, voire décevant, d'emmener un ado à l'autre bout du monde et de se rendre compte que bah, la magie n'opère pas, il n'en a pas grand-chose à faire.
Bah, tous les parents vous le diront, je pense. Mais je pense qu'en fait, moi, l'erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à emmener des enfants, c'est d'attendre quelque chose avec mon regard d'adulte pour eux.
Ouais.
Et je me souviens très bien d'une anecdote incroyable. On arrive sur l'île de Crozet, donc dans l'archipel Crozet, Kerguelen, vous savez, ces mondes français très lointains, au port de l'Antarctique encore.
Les terres australes et antarctiques françaises.
Les terres australes, exactement. Et là, on arrive et il y a Il y avait 150 000 manchots, une des plus grandes colonies de manchots royaux au monde. Et moi, je rêvais de voir ça. Ça, c'est le documentaire de National Geographic que vous vivez personnellement.
Ouais.
Et j'arrive là-devant avec les quatre jeunes derrière moi et je leur fais un discours d'adulte. Donc pendant une demi-heure, regardez comme la Terre, c'est beau, mais en même temps, c'est fragile, il faut vraiment la préserver. Donc je parle pendant une demi-heure de manière très grandiloquente.
L'alarme à l'œil.
Voilà, évidemment, les cheveux dans le vent, j'en avais un peu plus qu'aujourd'hui à l'époque. Et là, je me retourne et je vois Kevin et Mohamed, qui étaient deux des petits jeunes avec qui on était, qui tournaient le dos en fait à la colonie de Manchot qui jouait à un jeu sur mon iPhone parce qu'en fait ça faisait un petit moment qu'on marchait, en fait ils en avaient un peu ras-le-bol, ils étaient pas habitués à marcher et donc je me suis pris un petit coup quand même, mais après je me suis dit bien il faut les laisser aussi s'émerveiller à travers leur regard et leur monde en même temps tout en ne niant pas ce qu'on est en tant qu'adulte. Ouais. Et c'est très dur en fait de trouver les deux quand on emmène des adolescents dans la nature.
Mais alors concrètement, voilà, bon, on sent quand même la déception, effectivement, on est à l'autre bout du monde, on a fait du chemin et puis ils sont en train de jouer avec le smartphone. Concrètement, petit à petit, on arrive quand même, il y a des petites victoires, il y a des moments aussi où vous vous dites, là, il y a quelque chose qui est passé, là, ils ont compris, aimé, il y a eu un déclencheur, ce voyage n'a pas servi à rien.
Oui, je me souviens notamment donc de Kevin dont je parlais à l'instant. C'était un garçon qui était en décrochage scolaire et en fait, en allant à la rencontre des scientifiques qui travaillaient aux îles Crozet, il a rencontré des gens absolument passionnés par ce qu'ils faisaient, dont un homme qui s'appelle Cédric Marteau, qui est le directeur de tout ce qui concerne les réserves naturelles dans les terres australes, qui lui a donné le goût en fait des oiseaux et de l'ornithologie. Mmh. Ça n'a pas changé la vie de Kevin, il ne faut pas exagérer, c'est pas Walt Disney, mais par contre, il est rentré avec l'idée qu'on peut avoir une passion. Et avec l'idée qu'un jour il y retournerait, je l'ai eu l'été dernier au téléphone, il y a un an, il m'avait dit ouais, j'ai toujours cette idée d'y retourner. Donc ça lui a remis le pied à l'étrier en fait par rapport à son quotidien qui n'était pas toujours très rose.
Vous avez accompagné des enfants, des ados, mais aussi des adultes de tous âges dans les régions les plus reculées de la planète, dans les zones polaires. Vous allez partager avec nous votre expérience de guide. Ismaël Khelifa est avec nous, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Là où tout est, tout c'est pas vers où tout va passer après. Alors chante là où tout est. Chante là où tout est, tout c'est pas vers où tout va passer après. Alors chante là où tout est. Chante tendresse et chante arrache, chante les rencontres et les voyages, les coins des rues, les petits passages. Chante pour les fous, chante pour les sages. Là où tout est, tout c'est pas vers où tout va passer après. Alors chante là où tout est. Chante qui tout est, quitte ce que tout c'est, qui est tout sans tous ces pensées, qui vont peser sur tous tes sens, les chants se cachent dans les silences. Marche pour danser, danse pour aller juste à côté. Côté de la mer, côté de la nuit, côté de la mort, côté de la vie, côté de la vie. Chante pour celui qui baisse la tête, pour les enfants qui font la fête. Tous ces gens qui ont oublié que eux aussi ils peuvent chanter. Papa, 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 papa.
Chante de là où tu es, c'était Lior Chouve sur France Inter.
Spectateurs du monde entier, partez en compagnie de Pat Boone, de James Mason, d'Arlène Dahl, de Diane Baker et de Gertrude Le Canard à la découverte de mystères et de merveilles encore inviolées qu'aucun être vivant n'a exploré jusqu'à ce jour. Prenez congé de la civilisation pour les sauvages déserts glacés d'Islande. Scrutez sans peur le cratère sans fond d'un volcan ignoré. Faites la périlleuse descente vers l'inconnu.
Extrait du voyage au centre de la Terre, inspiré du roman de Jules Verne. Ismaël Khelifa, guide polaire, est avec nous, le temps d'un bivouac. Jules Verne a imaginé l'Islande comme porte d'entrée sublime pour voyager au centre de la Terre. Pour vous aussi, l'Islande a joué un rôle de porte d'entrée. En tout cas, ça vous a donné envie d'aller plus loin, pas au centre de la Terre, mais d'aller au-delà. Vous y êtes allé pour la première fois, je crois, c'était en 2003. Et ce voyage a été un véritable choc pour vous.
Oui, effectivement, parce que c'était aussi l'Islande d'avant le tour. tourisme de masse tel qu'elle le connaît aujourd'hui. Et en fait, j'avais un ami qui travaillait au guide du Routard et qui m'avait proposé de l'accompagner. Donc, j'ai pas du tout écrit le guide, mais j'ai fait le voyage pendant qu'il visitait des restaurants, des guest house.
Ça, c'est un bon plan, ça. Oui.
C'était super. Et en fait, j'ai découvert pour la première fois de ma vie à ce moment-là, des territoires sans rien à l'horizon, en fait. Juste le vent, les oiseaux, les herbes rases. Et ça m'a fait un bien. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. C'est pas du tout intellectuel, mais ça m'a fait un bien profond. Mmh. Et puis, dans des moments un peu plus durs dans ma vie, j'ai décidé d'y retourner dans ce pays. Puis, j'y suis retourné une fois pour ces moments-là, une deuxième fois parce que juste j'avais envie d'y retourner. Et puis, à la fin, je sais pas combien de fois j'y suis allé aujourd'hui, mais c'est un endroit qui m'a beaucoup touché, qui m'a donné ensuite envie d'aller voir ce qui se passait au Groenland. Et une fois qu'on allait au Groenland, on n'a qu'une envie, c'est de voir ce qui se passe en Antarctique.
Oui, c'est ça. Hein, c'était un peu la porte d'entrée pour se rapprocher de plus en plus du pôle Nord. Et puis, vous parliez de vos parents aussi. Vous avez fini par emmener vos parents en Islande. Et là, c'est un autre déclic, en quelque sorte. Vous vous rendez compte que vous aimez transmettre, vous aimez faire voyager, vous aimez faire découvrir.
Oui, et puis vous savez, quand on part avec ses parents et que c'est vous qui organisez tout, il y a un rapport nouveau qui se crée. C'est-à-dire que quand vous êtes l'enfant, c'est vos parents qui organisent tout, là c'est vous qui organisez tout. Et donc ça a mis quelque chose dans notre famille d'assez fort en fait comme rapport. Mes parents m'ont fait confiance en fait sur ce voyage-là. On s'entend très bien, donc en plus il y avait beaucoup d'amour et de partage. Et puis eux n'avaient jamais voyagé dans ces endroits. Et de voir en fait dans leurs yeux des moments mais d'une intensité très forte. On est allé voir les baleines à un moment, le matin on marchait dans une coulée de lave le matin, des baleines l'après-midi. Vous vivez quand même pas ça tous les jours. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir leur faire pénétrer mon univers. Mes parents, en fait, m'ont toujours poussé énormément à aller voir ce qui se passait plus loin, même si eux n'étaient pas forcément des grands voyageurs. Ils n'en avaient pas les moyens financiers. Mmh. Mais ils m'ont toujours poussé, toujours respecté là-dedans. Ouais. Et par chance, j'ai pu les aider à comprendre ce qui m'attirait dans ces endroits. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même le plus beau métier du monde, ouais, que de pouvoir transmettre sa passion.
Donc là, c'est un peu comme ça que naît cette envie de devenir guide, et plus particulièrement guide polaire.
Oui, tout à fait. C'est comme ça que je me dis, il faut que je trouve un moyen de le faire. Et puis quand vous n'êtes pas scientifique ou pêcheur, aller travailler au Groenland ou en Islande, c'est pas évident, quoi. Et donc j'ai commencé à chercher comment faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer au Groenland un homme qui compte là-bas, qui s'appelle Nicolas Dubreuil, qui vit une partie de l'année au Groenland. Et on est devenus des très bons copains, des très bons amis. Et lui, il est en fait chef d'expédition sur des bateaux qui emmènent des passagers là-bas. Et il m'a proposé en fait de le rejoindre. Et pour la petite anecdote, ce qui était très beau pour moi, parce que je suis un petit peu romantique, c'est que la veille en fait de mon mariage, j'ai eu un coup de fil de la compagnie me disant que j'étais pris et que mon épouse également était prise. Donc on a pu vivre ça tous les deux, grâce à Nicolas, dans ces territoires.
Mais alors parce que ça va peut-être donner des envies à des auditeurs, quelles compétences il faut avoir? Comment on devient? On comprend, il faut en avoir envie, mais ensuite comment on devient guide polaire? Quelles compétences?
Alors tout dépend de ce que l'on fait. Si vous voulez être guide, alors c'est-à-dire partir en expédition 15 jours, traverser la calotte polaire, mieux vaut procéder quelques brevets d'État qui vont vous permettre de maîtriser le ski, la survie en terres extrêmes, des compétences très techniques. Après, ce sont des régions où il n'y a pas forcément de diplôme, notamment l'Antarctique qui n'appartient à personne. Donc, c'est aux compagnies de vous former. Donc, d'abord, ce qu'on a appris, c'est à naviguer, piloter des zodiacs dans les icebergs. Donc, naviguer dans les icebergs, savoir faire des bonnes approches de la biodiversité pour ne pas la gêner, ne pas foncer sur les baleines, mais leur laisser le temps de pouvoir les regarder sans les déranger. Et puis ensuite, on apprend à connaître la glace. Et c'est ça le plus important, en fait, connaître la glace.
Qu'est-ce que ça veut dire, alors, connaître la glace? Qu'est-ce qu'il faut savoir?
Alors, ça veut dire l'observer au maximum, rechercher les failles, en fait, qui vont vous permettre de dire « Ouh là là, on ferme le site, ça sert à rien de marcher là, c'est trop dangereux. Ouais. » Savoir que quand un glacier vèle dans certains endroits de l'Antarctique, eh bien, il peut y avoir des projections à plusieurs centaines de mètres. Donc, on ne va pas mettre notre groupe à 50 mètres du glacier, mais on va le mettre beaucoup plus loin. Donc, c'est plein de compétences comme ça. Et puis, ça va même jusqu'à apprendre d'abord à savoir se servir de ses jumelles. Et ensuite, à savoir se servir d'une arme à feu et à repérer les traces d'ours pour éviter l'interaction avec cet animal qui, certes, peut être dangereux, mais qu'on n'a pas à déranger dans son univers à lui, quoi.
En tant que guide, vous avez emmené, on l'a entendu dans la première partie de l'émission, des enfants, des adolescents, mais aussi beaucoup d'adultes et de tous âges. Alors, ça se passe un peu différemment, on imagine, avec des adultes, parce que autant avec des enfants et même avec des adolescents, il y a une sorte d'autorité logique de l'adulte sur le groupe. Avec des adultes, il faut être plus diplomate, il faut savoir les protéger tout en les infantilisant pas.
Oui, et en même temps, tout en faisant preuve d'une certaine autorité, parce que les gens ont payé pour être là. Et il y a un moment, il faut aussi savoir s'imposer, parce qu'on a l'impression, vous savez, quand on fait du tourisme, que tout roule, en fait.
Ouais.
Or, vous êtes en Antarctique, sur un Zodiac, la mer est plane, mais d'un coup, il y a de la glace qui tombe, une vague qui arrive sur votre Zodiac, une personne de 80 ans qui tombe à l'eau. L'eau est à 1 degré, 4 minutes après, en fait, elle n'est plus là. Hein.
Ouais.
Vous avez beau faire votre manœuvre de l'homme à la mer, etc., on la met vraiment en danger.
Quand je vous entends dire ça, on se dit, vous devez être en permanence flippé, parce que vous avez des groupes de combien de personnes que vous amenez dans ces régions dangereuses?
Alors, sur un Zodiac, on est 10, par
exemple.
Et
vous êtes tout seul pour accompagner ces 10 personnes?
Alors oui, mais en même temps, il y a tout autour un dispositif de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a des Zodiacs qui sont là pour venir nous prêter main forte avec des marins en cas de problème. Mais effectivement, il y a quand même une part aujourd'hui de danger quand on fait ces choses-là. Et c'est vrai que ce qui est très drôle, c'est que moi, on m'a appris en fait à repérer le mal dominant, si j'ose dire.
Ouais.
C'est-à-dire que, par exemple, quand vous êtes sur un Zodiac, il y a toujours un homme qui a eu son propre voilier qui vous expliquait comment on pilote un Zodiac. Et là, bah, vous allez lui dire, bah, prenez le coupe-circuit et faites-nous passer entre les icebergs là-bas. Et bah, c'est pas pareil en fait de passer entre les icebergs et de piloter son bateau en Bretagne. Donc il faut savoir des fois un petit peu être viril, si j'ose dire. Mais ça peut être une qualité féminine aussi de certaines guides. Mais en même temps, la plupart du temps, les gens sont tellement subjugués que ça se passe bien. Et on vit quelque chose d'intergénérationnel, de très fort. C'est-à-dire que nous, les jeunes, on emmène ces gens qui sont souvent âgés. C'est un tourisme où on a besoin de temps et d'un peu d'argent. Et d'un coup, ce rapport s'inverse et ils nous font confiance.
Est-ce que parfois aussi, parmi ces gens que vous accompagnez à l'autre bout du monde, il y en a certains qui se voient un peu comme dans une sorte de parc zoologique géant, qui considèrent que comme sur la brochure, on avait dit qu'on verrait des baleines, comme on n'en voit pas, qui se plaignent. Enfin, est-ce que vous avez des gens trop exigeants, finalement, qui ne se rendent pas bien compte de l'endroit où ils se trouvent?
Évidemment, mais ça, c'est malheureusement, je dirais, un rapport à la nature qui est tellement courant aujourd'hui. Mais je me souviens, au Groenland, d'avoir un jour emmené un groupe. On part en Zodiac, voir donc les baleines à bosse dans les icebergs d'Ilulissat, les plus grands icebergs de l'hémisphère nord. Le premier groupe de 10 les voit, spectacle magnifique. Quand on arrive avec le deuxième, il n'y avait plus de baleines. Et donc, quelques minutes après, ces passagers déçus arrivent avec la brochure et viennent pourrir en fait la personne en charge de tout ça. Ils lui disent, on veut être remboursé, il est écrit qu'on doit voir des baleines. Donc, en fait, on réapprend à travers ces voyages, ces croisières-là, un rapport à la nature qui est plus subtil que celui auquel on est habitué.
J'avais réservé une cabine avec deux hublots dans la partie sanitaire.
Oui, monsieur. Je compte bien deux hublots.
Non. Non, il n'y a pas de hublots, là. Là, il y a deux sabords. Le sabord est rectangulaire, alors que le hublot, lui, est circulaire. Dans Tintin, le capitaine Haddock, il dit 1 000 milliards de 1 000 sabords. Il dit pas 1 000 milliards de 1 000 hublots.
Bien sûr.
Vous avez de la chance, je suis pas chez Potter, mais je l'ai prévu de hublot. Alors qu'est-ce qu'on fait? Concrètement.
Ismaël Khalifa, vous en avez des voyageurs un peu chipoteurs, parfois.
Effectivement, mais il faut quand même reconnaître que c'est une petite minorité, mais effectivement, on en a, oui.
Ouais. Alors, comment on gère tous ces imprévus quand on va à l'autre bout du monde avec ces groupes, hein, vous avez dit, pas tout jeunes, de profils différents, il y a des hommes, des femmes, de profils sociologiques différents aussi. Comment on fait pour que la mayonnaise prenne?
Ben, déjà, il faut être extrêmement préparé, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel risque on court. Il faut toujours, moi, je trouve, anticiper des risques à l'extrême, se dire très bien, quand j'arrive sur ce territoire, je repère tous les dangers possibles et je m'y prépare et je suis prêt à intervenir au cas où. Je dois savoir ce qu'il faut faire. Et puis on apprend une forme d'humilité, c'est-à-dire que le jour où vous avez 3 mètres de creux et 40 nœuds de vent, si vous n'avez pas envie de piloter, si vous ne le sentez pas, eh bien il faut dire je ne me sens pas de le faire et quelqu'un d'autre qui le sentira le fera à votre place. Mmh. Ensuite, eh bien il faut faire preuve, comme je vous le disais, d'un enthousiasme redoutable.
Ouais, à toute épreuve.
Voilà, donc autant travailler dans des régions qu'on aime, pour le coup. Et c'est en transmettant cette passion, en transmettant cet enthousiasme. Vous savez, quand vous avez quelqu'un de très enthousiaste et à côté des gueulards, eh bien, les gueulards, on les regarde toujours un peu de manière, oh là là, il est en train de nous gâcher la fête celui-là. Donc l'enthousiasme est une bonne clé pour manager des groupes comme cela.
Les tempéraments se révèlent aussi lors de ces voyages. Il y a des gens qui eux-mêmes se révèlent à eux-mêmes en quelque sorte.
Oui, complètement. Je me souviens par exemple, eh bien, c'était le 31 décembre 2016. On avait réussi à aller marcher sur une plaque de banquise en Antarctique, dans un endroit qui s'appelle Wheeler Wilhelmina Bay où il y a énormément de baleines et on regardait les baleines à bosse qui se nourrissaient devant la plaque de banquise. Et là, il y avait un passager qui s'appelait Henri qui était très touchant parce qu'il venait faire ce voyage. Il s'était promis de le faire avec sa femme et elle était décédée 2 ans avant. Et donc, il était dans une espèce de pèlerinage personnel. On discutait beaucoup. Et ce jour-là, il pleurait. Il me disait, Ismaël, c'est un jour magnifique. Ma femme aurait adoré voir ça. Je pense vraiment à elle. Et là, il y a un autre passager qui arrive. Henri, c'était un ingénieur à la retraite. Et l'autre passager, c'était un homme qui avait gagné de l'argent dans le bâtiment en étant ouvrier puis patron de sa boîte, qui était marseillais avec un accent à couper au couteau, une crinière à la Patrick Juvet, des tatouages de partout. Et il vient me voir, il me tape dans le dos, il me dit « ça va Mino ?» comme ça, bon, je fais pas l'accent. Hein. Ouais. Et là, il regarde Henri et lui dit bah, « t'es qui toi pour pleurer comme ça? On vit un super jour là. » Et le fameux Henri donc lui raconte toute son histoire. Et cet homme, avec sa façon d'être à lui, lui dit « mais Henri, arrête de pleurer, refais ta vie, rencontre une femme, allez, c'est génial, tu peux vraiment refaire ta vie, regarde. » Et le fameux Henri et cet homme sont devenus très amis. Et Henri m'a dit après « personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Et si ces gens-là n'avaient pas eu l'Antarctique pour se rencontrer, en fait, ils ne se seraient jamais rencontrés. Ouais. » Et c'est ça que moi j'adore dans ces voyages, ça n'arrive pas à chaque fois. Mais quand ça arrive, c'est des petites pépites de vie.
Ils auraient peut-être pu se rencontrer ailleurs, mais en tout cas l'Antarctique leur a permis de se croiser. Ces voyages sont aussi l'occasion de prise de conscience écologique pour certaines personnes. Et nous allons en parler dans un instant avec Ismaël Khelifa sur France Inter. Suivons le guide et dans le calme, s'il vous plaît.
Non, non, non.
Où suis-je vous ?
Pierre, non, lâchez-la. Monsieur, c'est taré, non.
Arrêtez,
arrêtez.
Vas-y,
Ah ben ça te fait maintenant, oh ! Ça te fait là ! Ça va pas vous mal comme ça, non ? Oh ben je vous préviens, je fais pas de guide dans ces conditions, ok ? Vous vous faites la gueule, si vous voulez, mais les coussins, non, y a pas moyen. Moi je suis responsable, moi. J'ai un groupe à emmener à Saint-Jacques. Ils ont payé pour ça. Je les emmène, c'est tout. Et personne fout le bazar dans le groupe, ok ?
Et c'est comment qu'on s'organise pour la bouffe ?
Way. Start your free trial today. Come on in the water's lovely look. You could meet someone you like. During the meteor you strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go. And you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist. At the information action ratio. Stop laughing, is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up on another semitone. For a little while. Come and stay with us.
Le temps d'un bivouac sur France Inter, Daniel Fievé.
Et c'était 4 out of 5 des Arctic Monkeys.
J'avais jamais vu la pluie en X voyages en Antarctique. Et là, cette année, le dernier jour de tournage, il a plu. Et dit comme ça, c'est anodin, c'est ces quelques degrés de plus qui transforment la neige en pluie, sauf que les animaux là-bas sont absolument pas adaptés. Et en particulier une espèce qui appelle le manchois d'Élie, dont le poussin a un duvet qui n'est absolument pas étanche. Et quand il pleut, le duvet se plaque et les animaux meurent de froid.
Le réalisateur Luc Jacquet, de retour du tournage de son documentaire Antarctica. Vous le connaissez bien, hein, Luc Jacquet, oui. Ismaël Khelifa, là on l'entendait, il s'inquiétait encore une des conséquences du changement climatique, de la pluie en Antarctique et les poussins manchots qui risquent, pour certains en tout cas, y passer à cause de ces pluies. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré, vous, Luc Jacquet ?
Eh bien, on a travaillé ensemble sur un film qui s'appelait La glace et le ciel, qui est sorti en 2015, je crois. Et en fait, c'était un film qui racontait l'histoire de Claude Lorius, l'un des pionniers de la glaciologie dans l'histoire de l'humanité, qui est un homme qui a l'Antarctique chevillé au corps et qui a justement découvert dans ces glaces le lien qui a quelque part contribué à faire ressortir l'idée du réchauffement climatique des glaces de l'Antarctique à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Donc c'est un de ces hommes pionniers et Luc a raconté son histoire à travers ce très beau film et je l'ai assisté en tant que coordinateur d'écriture, on va dire, dans ce projet-là.
Et quand vous vous rendez dans ces régions polaires avec des groupes que vous accompagnez, il y a aussi cette idée de sensibiliser au changement climatique, aux conséquences pour ces régions que l'on connaît pas, que l'on ne voit pas, et donc c'est pas très concret quand on nous dit qu'elle se réchauffe à vitesse grand V.
Tout à fait, c'est quelque chose moi qui me tient beaucoup à cœur parce que on a la chance en tant que guide de devoir transmettre du savoir. Hein. C'est pas que du divertissement. Encore une fois, on n'est pas aux zoos, mais on doit transmettre du savoir aux gens, on doit leur expliquer. Et ce qui est formidable, c'est quand vous ramassez un petit bout de glace dans l'eau, que vous montrez les petites bulles en fait qui se trouvent dans ce petit morceau de glace, et que vous expliquez aux gens qui sont avec vous, et bien que c'est à travers les petites bulles que vous êtes en train de leur montrer, qu'on a pu analyser la composition chimique, la texture de ces bulles, et qu'on a pu réécrire toute l'histoire du climat en remontant jusqu'à 800 000 ans dans le passé. Et donc, on a pu voir qu'il y avait une anomalie incroyable dans ce climat à partir du 19e siècle et du début de la révolution industrielle. Et ça, vous le dites face à un immense glacier, et vous expliquez qu'en fait, ce que vous avez face à vous, c'est une bibliothèque climatique, les archives du climat. Et d'un coup, pour les gens, ça devient plus quelque chose de théorique, ça devient quelque chose de très personnel et de très fort. Après, on le fait en Antarctique, mais on pourrait le faire aussi dans les Alpes près de chez nous, vers le Mont Blanc, etc. Donc il y a d'autres endroits pour le faire. On n'est pas obligé d'aller en Antarctique, mais c'est quelque chose d'important pour moi de pouvoir parler de tout ça.
Et ces gens qui vous accompagnent, vous avez senti parfois une prise de conscience, c'est-à-dire que face à ces paysages, face à vos explications, vous avez senti que les mentalités évoluaient ?
Plus qu'une prise de conscience, je dirais qu'il y a des gens qui sont repartis à la fois émerveillés et très tristes. Je pense notamment à cet homme qui devait avoir 75 ans, qui a fait toute sa carrière dans l'industrie pétrolière. Et puis le dernier jour, on quittait un endroit qui s'appelle Danko Island, qui est un endroit où il y a beaucoup de manchots. C'est absolument magnifique en péninsule antarctique. Et il vient me voir et il me dit, vous voyez, toute ma vie, moi j'ai travaillé dans le pétrole et puis j'allais faire des safaris, j'ai beaucoup voyagé. La nature était pour moi un divertissement. Et là, ça m'a tellement touché profondément de voir ces adultes manchots qui nourrissent les petits, ce combat pour la survie, et qu'en même temps de voir que sans toute cette glace que raconte Luc Jacquet, eh bien, ils sont condamnés en fait. Que je viens de prendre conscience vraiment de ce que c'est que la fragilité de cette nature, et je me demande un peu pourquoi dans ma vie je me suis pas plus investi. Alors, c'est pas tous les jours qu'on entend ça, mais quand même, je pense qu'il y a toute une part des gens qui vont là-bas, qui pour autant ils reprendront leur voiture quand ils arrivent, parce que c'est plus compliqué que ça de changer sa façon de faire. Sinon, on le ferait tous. Mais ça va générer chez eux quelque chose de profond.
C'est intéressant que vous disiez, c'est plus compliqué que ça de changer sa façon de faire. Parce que on ne peut pas s'empêcher de penser en vous écoutant, même si la sincérité est évidente, que finalement, vous conduisez des gens à prendre l'avion pour traverser les hémisphères, traverser le globe, à monter sur des bateaux qui, dans ces régions, polluent, amènent de la pollution. Et donc, c'est pour les sensibiliser à l'environnement, mais d'une certaine manière, vous contribuez à la pollution que vous dénoncez. Alors, comment vous vous arrangez avec cette contradiction ?
Eh bien, très mal, je vous le cache pas. C'est le dilemme, en fait, je pense, de tous les voyageurs. Luc Jacquet, quand il fait un film en Antarctique, pour dire arrêter la machine, eh bien, il va remettre des sous dans la machine. N'importe lequel des aventuriers qui part avec un discours de sensibilisation en disant il faut tout changer, ok, mais avant ça, toi, t'es allé te faire ton délire au Groenland ou en Himalaya ou je ne sais pas où, alors qu'on pourrait aller dans les Hautes-Alpes, en Méditerranée, à côté de chez nous. Et même en allant à côté de chez nous, quand on va passer nos vacances dans les Pyrénées, qu'on prend des voitures pour y aller, on participe en fait à tout cela. Donc c'est très difficile à gérer pour moi. Moi, ce que j'en ai déduit, c'est que c'est difficile d'être irréprochable, qu'on a tous des métiers, que moi, mon métier était lié au déplacement et au tourisme. J'ai une carrière internationale, je suis un enfant des années 70, donc c'est un peu dans la veine de notre société. Et j'essaye, à mon niveau, de réduire mon empreinte carbone, même si, je ne vais pas vous mentir, elle est terrible. Donc c'est très difficile de dealer avec ça, mais je pense qu'on est tous confrontés à ça aujourd'hui, et que c'est en fait très compliqué. N'importe lequel d'entre nous aimerait que la planète se porte mieux, mais comment on fait ? Comment on fait et comment est-ce qu'on pousse nos gouvernements à faire en sorte que ça aille mieux ? Après, je pense que la question qui se pose, c'est quelles limites serons-nous capables de mettre en place ? Je pense que dans ces régions polaires qui sont encore plus préservées que certains endroits, hein, c'est pas le tourisme de masse des régions alpines, par exemple, ou de la Côte d'Azur, il y a un moment où il va falloir dire stop. Il y a trop de gens, il y a des activités qu'on peut plus faire et mettre des formes de quotas et puis que les entreprises touristiques eh bien, participent aussi à ce qu'on appelle la compensation carbone, c'est-à-dire compenser leurs émissions de gaz à effet de serre.
C'est le cas, par exemple, vous, dans vos voyages, vous faites en sorte de compenser, c'est-à-dire la compensation, c'est souvent replanter des arbres, enfin faire en sorte que le carbone que l'on dégage en voyageant soit réinvesti ou je ne sais pas comment dire, mais réutilisé dans une forêt d'une certaine manière.
Oui, voilà, c'est que par exemple, si vous faites 1500 km en avion, vous allez sur des sites et des associations qui font ça très bien, qui vont vous dire, eh bien, si vous versez 40 euros, ce qui correspond à votre coût carbone, nous, on va aller replanter de la mangrove à tel endroit pour pouvoir absorber du carbone. Moi, je le fais en partie, mais après, j'ai bien conscience que c'est le changement de comportement plus que la compensation, qui est aussi un sport de riche, souvent, qui permettra vraiment de changer les choses.
Pour conclure, on peut aussi vivre des aventures et un dépaysement près de chez soi. C'est aussi un état d'esprit, l'aventure. C'est vrai que là, vous êtes guide polaire, donc on est parti loin à l'aventure, mais ne donnons pas l'impression que le message, c'est si on veut vivre l'aventure, il faut forcément aller à l'autre bout de la Terre.
Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Et vous voyez, je suis en train de créer une petite association qui s'appelle For My Planet. En fait, on va emmener des enfants dans la nature, comme je le raconte dans mes livres, parce que c'est une des préconisations des scientifiques aujourd'hui. Amener ces jeunes urbains qui n'ont pas grandi dans la nature en prendre le goût, toucher le sol avec leurs doigts, voir les oiseaux par eux-mêmes, etc. Et ces aventures vont se passer. La première opération aura lieu en avril dans le parc national des Calanques à Marseille, parce que moi j'ai bien conscience que c'est à côté de chez nous que ça se passe et que c'est pas simplement les ours polaires au Groenland.
Ouais. Alors je rappelle le titre de votre livre, Opération Manchot, signé donc Ismaël Khelifa, titre de la collection Team Aventure et l'édition c'est Poulpe Fiction. Merci à vous Ismaël Khelifa, restez avec nous. Dans un instant, nous allons prendre des nouvelles de Mélusine Malander qui se trouve quelque part avec sa moto en Bolivie. Mais avant, un petit détour par Paris.
Dans la brume électrique, elle dort sans dessous dessus et son corps encore inconnu laisse entrevoir son cœur qui cogne un peu plus fort, toutes ses couleurs. Thank you.
C'était l'impératrice qui chantait Paris sur France Inter et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Elsa Béranger. Vous vous souvenez peut-être de Mélusine Malander, cette femme qui parcourt le monde à moto, seule, à la rencontre de celles et ceux qui se demandent ce qu'est la liberté tout au long de ses voyages. Elle les interroge. Nous avions fait connaissance avec elle il y a quelques semaines dans le temps d'un bivouac. Elle est repartie sur les routes et nous allons prendre de ses nouvelles.
Allô.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment.
Oui, mais c'est le satellite qui attend.
Eh oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour, Mélusine Malander.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes sur les routes de Bolivie. Où vous vous trouvez exactement ?
Alors là, je viens d'arriver à Santa Cruz, une des villes les plus grandes de Bolivie.
Décrivez-nous cette ville, l'ambiance et l'atmosphère dans laquelle vous venez donc d'arriver.
Contrairement à une grande partie en fait, de la Bolivie, ici c'est très plat. Du coup, on est vraiment dans une ville où il y a du bruit, et le bruit vraiment de la ville, mais il fait chaud. Et là, ça fait vraiment du bien. Après les hauteurs à 4000 et d'être vraiment dans un peu plus de chaleur.
Oui, parce que vous revenez, quand vous dites les hauteurs à 4000 mètres, il y a quelques jours, vous étiez beaucoup plus en altitude. D'où venez-vous exactement ?
De Potosí, qui est une des villes les plus hautes du monde et en fait qui est complètement concentrée autour du Cerro Rico, qui est une montagne très orange, très rouge, très brune et qui a bâti sa fortune sur les mines d'argent. Donc c'est une ville anciennement coloniale, mais on a encore des mines qui travaillent, qui sont actives autour de l'étain. Et du coup, j'étais là-bas.
Et alors ces mines, apparemment, les conditions de travail sont assez épouvantables. Hein. C'est comme ça qu'elles sont décrites. Vous avez pu voir ça de près. Qu'est-ce que vous y avez vu ?
Les conditions sont vraiment manuelles. Il y a vraiment très peu de mécanisation. Donc, les gens travaillent dur avec les mains. On transporte des sacs de 50 kilos. On rentre déjà dans la mine. C'est hyper difficile de respirer parce qu'il y a beaucoup de poussière. Il y a une espèce d'odeur âcre d'ammoniac qui prend les poumons. Donc, on a vraiment du mal à respirer, ce qui donne le mal des montagnes, le mal de la mine. L'espérance de vie dépasse très, très rarement les 40 ans.
Ah oui, ce sont donc des conditions très difficiles. Je rappelle que le but de vos voyages sur les voies de la liberté, partout où vous passez, vous demandez aux hommes et aux femmes ce que signifie pour eux la liberté. Alors, on imagine que dans cette région minière avec des travaux si durs, la notion de liberté en prend un coup. Qui vous avez rencontré et qu'est-ce que vous avez eu comme réponse à cette question que vous posez partout où vous passez? Qu'est-ce que la liberté ?
Moi, ça m'intéresse quand même de parler plus aux femmes, aux épouses de ces mineurs qui sont à côté, en fait, qui n'ont pas le droit de rentrer dans la mine parce que la mine, c'est ce qu'ils appellent la Pachamama, en fait, c'est vraiment la femme. Et à l'intérieur, il y a le dieu de la mine, le Tio, qui ne peut pas être déconcentré par les femmes. Et donc, du coup, il y a plein de femmes qui travaillent autour, qui vont garder les mines. Donc, ils ont, et moi, ça m'intéressait de les rencontrer. Du coup, j'en ai rencontré quelques-unes. Et pour elles, ça va surtout... En fait, ce qui est compliqué pour elles, c'est qu'elles vont avoir énormément d'enfants. Et puis, comme leurs maris vont mourir... J'ai rencontré Marcelina et son père était mort dans les mines, son mari était mort dans les mines, son frère était mort dans les mines. Donc il y a quand même ce taux de mortalité qui est assez important. Et pour elle, c'était quand son mari est mort, il a fallu qu'elle trouve un travail. Et pour elle, en fait, c'est devenu sa liberté. En fait, à partir du moment où elle a réussi à trouver du travail pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, qui en a 7 ou 6, et c'était vraiment pour elle, elle avait réussi. Et elle s'est sentie libre, en fait, pour la première fois de sa vie. Et le fait de pouvoir, en fait, casser ce système-là, de se dire, je veux pas que mes enfants aillent dans la mine et souffrent, en fait, et subissent la même détérioration que mon mari ou tous les membres de ma famille masculine, pour elle, c'était une victoire.
C'était une sorte d'émancipation. On entend autour de vous hein, les bruits de la ville où vous vous trouvez à Santa Cruz. Est-ce que vous avancez au rythme que vous voulez pour le moment, Mélusine Malander?
Alors, j'avance plus doucement que ce que je pensais, parce que déjà, c'est très beau. Ouais. Les paysages sont vraiment fantastiques. On a tout ici. On a le Salar de Uyuni, qui est une espèce d'immense plateforme salée. On a la montagne, on a les canyons, on a les cactus, on a du sable. Et ça monte, ça descend, ça zigzague, et les routes sont pas toujours en bon état. Donc, ben, évidemment, les distances à vol d'oiseau peuvent paraître courtes, mais en moto, c'est un peu plus sportif.
D'accord. Donc, ça se passe un peu plus lentement, mais apparemment, vous en prenez plein les yeux. Quelles seront les prochaines étapes? Là, vous vous reposez un peu à Santa Cruz, dans la douceur, on l'a compris, l'oxygène est plus respirable. Les prochaines étapes, où vous allez?
Eh bien, ça va être vraiment la jungle et le pantanal bolivien. Ouais. Donc, c'est une énorme partie bolivienne qui est de la jungle, de la forêt, la forêt amazonienne. Et j'ai envie d'aller dans cette partie-là, voir les animaux, sentir l'humidité et cette Bolivie qu'on ne connaît pas toujours.
Quel genre d'animaux vous risquez de croiser dans cette jungle avec votre moto?
Alors, le moustique, ça c'est sûr, peut-être des caïmans, des oiseaux, des singes, des paresseux.
D'accord, des caïmans, vous le mettez comme ça dans la liste, mais vous faites quoi si vous tombez nez à nez avec un caïman, Mélusine?
Je n'en sais rien, je n'en ai aucune idée, j'espère qu'il restera dans l'eau et que moi je resterai sur ma moto.
Bon, eh bien écoutez, on vous souhaite bonne route, faites quand même un peu attention à vous, et puis on peut vous suivre sur votre page Facebook que nous allons mettre en lien sur le site de France Inter et sur notre page Facebook à nous. Au revoir, prenez soin de vous et bonne route, Mélusine Malander.
Merci, au revoir.
Voilà ce qu'on va faire, tu vas prendre cette route, je vais couper par là et on se retrouve de l'autre côté.
Demain, le généticien Axel Kahn nous racontera les deux grandes traversées de la France qu'il a faites à pied. La première de la frontière belge à la frontière espagnole et la seconde suivant la diagonale opposée de la pointe du Raz à Menton. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et après le journal, nous avons rendez-vous avec Charlotte Lipinska pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Charlotte.
Bonjour Daniel.
Au programme aujourd'hui.
Eh bien aujourd'hui, on va partir en Algérie avec un jeune humoriste Reda Sediki et le symbole de la culture berbère et kabyle, Idir.
Ah, vous aussi, vous nous faites voyager maintenant.
Bah, bien sûr, on voyage avec la culture.
Bien sûr, merci à Juliette Delperro et Nicolas Delmas qui étaient à la technique aujourd'hui.